Christelle Rebière pour le journal. Bonjour Christelle.
Bonjour à tous.
Avec à la une, toujours pas de désescalade en vue sur l'Ukraine. Les chefs d'État se sont pourtant parlé longuement hier, mais sans s'entendre. Et de plus en plus de pays appellent leurs ressortissants à quitter l'Ukraine. On y revient après les autres titres, Christelle.
Le Novavax va-t-il convaincre les derniers réfractaires au vaccin? Ce sérum sans ARN messager arrive à la fin du mois. Valérie Pécresse acquitte ou double, premier grand meeting de campagne au Zénith de Paris. Elle doit remotiver ses électeurs que d'autres cherchent soigneusement à lui siphonner. Dans ce journal, quand le prix de l'électricité menace les producteurs d'endives, la Perle du Nord devient un luxe trop cher à produire. Un concert devant 100 millions de personnes, les rappeurs vont assurer le show à la finale du Super Bowl cette nuit aux États-Unis.
Et puis à partir de 8h20, notre invité, ce sera le député européen Bernard Guetta, ancien correspondant à Moscou et à Varsovie. On va tenter avec lui de comprendre les réelles intentions de Vladimir Poutine sur le dossier ukrainien.
France Inter. La Russie va-t-elle privilégier la diplomatie à l'usage de la force? La question demeure intacte. Les Russes sont en manœuvre dans la mer Noire et la diplomatie du coup de fil entre les dirigeants hier a tourné au dialogue de sourds. La liste des pays qui appellent leurs ressortissants à quitter l'Ukraine ne cesse de s'allonger. Et sur place, les réservistes de l'armée ukrainienne s'entraînent au cas où. Notre envoyé spécial Benjamin Illy est allé à leur rencontre.
Uniforme bien propre et fusil en bandoulière, ces réservistes ont mis en suspens leur vie quotidienne pour réveiller leurs réflexes. Entre deux simulations de jets de grenades au cœur de la forêt, la discussion porte vite sur l'éventualité d'une attaque russe à très court terme ou pas. Igor, 44 ans. Nous avons plus de 100 000 soldats russes à nos frontières, dit Igor, avec beaucoup d'armes, d'équipements. Le risque est élevé. Et c'est pourquoi je m'entraîne. Mais personne ne sait ce qui va se passer. Même Poutine, à mon avis, ne sait pas encore ce qu'il va faire.
Martha.
Elle s'appelle Martha. Et elle a 50 ans. Est-ce que vous, Ukrainienne, vous conseillez aux expatriés de quitter le pays, là, tout de suite?
Chacun
doit faire son propre choix, répond Martha, mais si l'Ukraine devient le lieu de déclenchement de la guerre, n'oubliez pas que cela pourrait concerner non seulement toute l'Europe, mais aussi le monde entier.
Il s'appelle Andrei, 54 ans.
Andrei compte encore sur la diplomatie. Elle est nécessaire, nous dit-il, même maintenant, car elle permet de reculer le moment de l'attaque et nous donne plus de temps pour nous préparer.
Alors, il m'attrape le bras, il me glisse quelque chose à l'oreille.
Poutine, через Україну, не пройде.
Poutine ne passera pas, certainement pas par l'Ukraine. Voilà ce qu'il vient de dire.
Reportage de notre envoyé spécial Benjamin Illy. Une trentaine de djihadistes tués par la force Barkhane au Burkina Faso hier. Mais l'heure est plutôt au retrait. Dans le journal du dimanche, l'Élysée évoque le départ prochain des forces françaises engagées au Sahel. Plus une question de jours que de semaines. Combien mettront le cap sur Bruxelles demain? Ceux qui se réclament du convoi de la liberté n'ont pas bloqué Paris hier. Tout au plus, quelques centaines de véhicules ont pu s'infiltrer. Mais les derniers protestataires ont été évacués tard hier soir du quartier de l'État. 54 personnes ont été arrêtées, 337 verbalisées. 4 millions de Français n'ont reçu aucune dose de vaccin. Le gouvernement espère convaincre les derniers réfractaires avec l'arrivée à la fin du mois du Novavax. Mais à les écouter, Marion Ferrer, une poignée seulement semble prêt à sauter le pas.
C'est le cinquième vaccin autorisé en France. Celui-ci n'est pas à ARN messager, technologie pointée du doigt par les non-vaccinés. Novavax utilise un procédé plus classique, de quoi faire réfléchir Arnaud, professeur de 53 ans.
Si je suis acculé, je prendrai ce vaccin-là. Mais la détermination, ce sera de retrouver mes libertés plutôt que de m'immuniser contre une maladie qui concerne pas vraiment ma tranche d'âge.
Réflexion engagée aussi pour Annie, 75 ans, mais lorsqu'elle apprend qu'il s'agit d'un vaccin américain, c'est un non catégorique.
Je n'ai pas confiance. Moi, je veux, français et fabrication Pasteur.
Isabelle, elle, 62 ans, tout juste retraitée, elle préfère aussi attendre.
Moi, je crois au vaccin, à la Pasteur, c'est-à-dire au virus désactivé. Il y a une structure en France, Valneva, qui le prépare avec une petite biotech. Je me méfie beaucoup des gros labos, etc., de toutes ces sociétés financières. Donc j'attends en fait le vaccin Valneva.
Ce qui pourrait également freiner les non-vaccinés, c'est la dose de rappel. La Haute Autorité de Santé estime qu'elle n'a pas encore assez de données pour employer Novavax en troisième dose. Il faudra donc passer par Pfizer et Moderna.
Marion Ferrer, un peu plus d'un million de doses sont attendues. Le gouvernement a promis de les envoyer en priorité en Outre-mer, où la couverture vaccinale est faible et la défiance encore forte. forte.
Elle joue gros et elle le sait. Valérie Pécresse va tenir son grand meeting cet après-midi au Zénith de Paris pour sortir du faux plat de sa campagne.
45 minutes de discours pour convaincre, donner une vision, casser les codes et surtout son image trop lisse. Après les défections de cette semaine, l'absence tout à l'heure de Nicolas Sarkozy, c'est désormais Éric Zemmour qui tente de siphonner son électorat. Anne Souhaitement, vous l'avez suivi en meeting à Saulieu en Côte d'Or.
Vous êtes une honte !
À quelques mètres du meeting, ils sont une cinquantaine, dont Christiane, indignée par la présence d'Éric Zemmour.
Quand j'entends ce que dit M. Zemmour sur les migrants, sur les femmes, je supporte pas, donc je viens dire mon désaccord.
Un peu plus loin, derrière un impressionnant dispositif policier, plus de 3000 personnes venues pour écouter Éric Zemmour, qui consacre 20 minutes de son discours à Valérie Pécresse et s'adresse à ses électeurs.
Assumez ce que vous pensez. Non, Valérie Pécresse n'est pas de droite.
Objectif, les convaincre de choisir le bulletin Zemmour plutôt que Pécresse.
Valérie Pécresse ne supprimera pas le droit du sol. Elle ne réduira ni le nombre d'entrées légales, ni le coût de l'immigration.
Une attaque qui fait mouche à la veille du grand meeting de la candidate LR cet après-midi au Zénith. Car la salle est truffée d'électeurs de Chirac, Sarkozy ou Fillon qui cette fois-ci refusent de soutenir Pécresse, même si certains ont voté Ciotti à la primaire, comme André ou Rémy.
Elle est trop molle, elle fera pas ce qu'elle dit.
Valérie Pécresse, c'est le toboggan. Elle va finir à 9, tous les mecs de Ciotti vont venir.
Pour chasser l'électeur LR, le camp Zemmour a imprimé à 2 millions d'exemplaires un tract anti-Pécresse qu'il distribue dans plusieurs villes stratégiques de droite, même si ce sont bien les slogans de l'extrême droite qui résonnent.
Reportage Anne Souhaitement. À gauche, Christiane Taubira, qui n'a pas réussi à obtenir l'union de la gauche, assure dans les colonnes du Parisien aujourd'hui en France qu'elle ira jusqu'au bout. Jean-Luc Mélenchon, lui, est en meeting à Montpellier cet après-midi. Roussel2022.fr, Marine2022.fr, à chaque candidat son site internet. Mais parfois, il faut se livrer à une petite bataille pour récupérer le nom de domaine qui convient, c'est-à-dire l'adresse du site. C'est ce qu'ont dû faire les équipes d'Emmanuel Macron. Plusieurs adresses correspondant au nom du chef de l'État, toujours pas officiellement déclaré, avait déjà été réservé par des inconnus, Xavier Demani.
Ces derniers mois, les équipes du chef de l'État ont en effet bataillé pour reprendre la main sur Macron2022.fr. Et si le lien avec le président et sa probable future candidature est assez évident, il a fallu quand même fournir des justificatifs à l'AFNIC, l'organisme qui gère l'attribution des sites en .fr, son directeur Pierre Bonis.
Il faut amener la preuve que le titulaire l'a enregistré sans intérêt légitime et ou l'a enregistré de mauvaise foi, dans le but de profiter de la renommée.
Même problème côté LREM, le parti vient tout juste de récupérer avec les dents l'adresse enmarche2022.fr achetée il y a 2 ans par un éditeur de BD satirique. Globalement, d'après Pierre Bonis, il s'agit là d'un phénomène courant en période électorale.
À chaque fois qu'il y a des élections, on a régulièrement, effectivement, des demandes de résolution de litiges autour des patronymes, des candidats putatifs. Il y a même parfois des résolutions de litiges sur des gens qui ne sont pas candidats et qui disent « Mais pourquoi est-ce qu'on a pris mon nom pour faire croire que je le suis ?»
Et il suffit d'une petite recherche pour se rendre compte que des adresses ont déjà été réservées pour Hollande ou Sarkozy 2022 et sont en vente à plusieurs centaines ou milliers d'euros. D'ailleurs, certains candidats mal informés déboursent parfois d'importantes sommes pour racheter leur propre nom.
Le pouvoir d'achat reste au cœur de cette campagne, en particulier à cause de la forte hausse du prix de l'énergie, et ça peut avoir des répercussions jusque dans nos paniers. Le coût de l'électricité fait bondir le prix des endives. Or, les grandes surfaces ne rognent pas leurs marges et les consommateurs boudent ce produit. Dans le Nord-Pas-de-Calais, qui compte 350 producteurs, ça devient une question de survie. Reportage Cécile Bidot.
Dans l'endiverie de la famille Bouquillon, les bacs sont moins nombreux que d'habitude à reposer dans le noir. Mathieu a dû réduire sa production de 20%.
L'électricité emballage, on se demande si ça va s'arrêter à un moment ou pas. On a baissé l'offre en espérant augmenter les prix et pour pouvoir pallier un petit peu à ces augmentations-là. Mais pour le moment, c'est pas le cas. Donc c'est un peu double peine en quelque sorte.
Et ces prévisions sont amères.
On est en train de perdre tout ce qu'on a pu gagner l'année dernière.
Les 6 salariés travaillent donc moins. Le père, Daniel, qui a laissé la main à son fils il y a 2 ans, s'inquiète pour la suite.
Une exploitation comme celle de mon garçon maintenant, chaque jour, c'est 900 euros de perte. Sur une semaine, 4500 euros. Ne pourra pas durer longtemps.
Petite ou grande exploitation, le constat est le même. Alors Daniel Bouquillon demande au supermarché de faire un geste.
Ne tuez pas une filière, parce que l'endive, vous la trouvez uniquement en France et on connaît tous maintenant l'attachement du consommateur aux produits français. Mais surtout, regardez un peu au niveau de vos marges et bien sûr, à l'État quid électricité pour nous permettre de réduire cette charge d'électricité.
Et pour que les prix remontent, il s'adresse cette fois aux consommateurs.
Surtout, manger de l'endive, manger de l'endive. C'est pour moi le légume qui a le meilleur rapport qualité-prix, praticité.
D'autant que d'autres légumes, comme les asperges, pourraient vite se retrouver dans la même situation.
De l'autre côté de l'Atlantique, ce sera plutôt pop-corn qu'endive ce soir. Au moins 100 millions d'Américains, soit près d'un sur trois, seront confortablement installés devant leur télé pour suivre la finale du Super Bowl qui opposera les Rams de Los Angeles aux Bengals de Cincinnati. Mais c'est bien plus que du football américain, c'est surtout des spots de pub inédits et un concert. Les rappeurs sont à l'honneur cette année, Loïc Piala.
Les sons de Dr. Dre et Snoop Dogg appartiennent depuis longtemps à la pop culture. Les deux artistes de Los Angeles ont marqué leur génération bien plus que Maroon 5 ou The Weeknd, pourtant stars de la mi-temps du Super Bowl avant eux. Des rappeurs comme Missy Elliott ou Travis Scott ont bien fait des apparitions lors de concerts, mais le hip-hop n'avait jamais été au centre de la scène. Erreur corrigée, se félicite Dr. Dre.
Le hip-hop est le premier genre musical sur la planète aujourd'hui. C'est fou qu'il ait fallu tout ce temps pour obtenir enfin cette reconnaissance.
Ketra Armstrong, chercheuse à l'université du Michigan, se réjouit de voir des artistes comme Snoop ou Kendrick Lamar sur scène. Elle constate toutefois qu'un seul entraîneur de NFL est noir et qu'aucune équipe n'a un propriétaire afro-américain, alors que 70% des joueurs le sont.
On célèbre les Noirs sur le terrain à l'origine du produit. On célèbre les Noirs qui assurent le divertissement autour du produit. Mais quand il est question du leadership de ce produit, on ne voit rien.
Le 1er février, Brian Flores, coach noir tout juste licencié des Miami Dolphins, a attaqué la NFL et son ancien club pour discrimination raciale. À Los Angeles, Loïc Piala pour France Inter.
Et précisons qu'il y a quelques jours, une femme a porté plainte pour viol à Los Angeles contre le rappeur Snoop Dogg, qu'elle accuse de l'avoir agressé en 2013 en marge d'une audition.
Allez, on part en Chine, Christelle. Touchous, c'est le journal des sports.
Bonjour Emma Sarango.
Bonjour.
Une bonne couche cette fois sur les Jeux d'hiver, il a neigé et fort sur les sites olympiques autour de Pékin.
Et précisément sur le massif de Yangqing où la première manche du slalom géant masculin s'est déroulée tout à l'heure dans des conditions rudes pour les skieurs. Guillaume Batin, vous êtes en direct de la piste pour France Inter. La deuxième manche qui devait initialement commencer avant 7h a été repoussée. Mais ça y est, on y voit plus clair Guillaume, les skieurs sont au portique de départ.
Alors on y voit plus clair, oui, parce que la course a démarré, les six premiers sont passés, le meilleur temps pour l'instant, qui sera sans doute battu dans les minutes qui viennent, est signé du Bulgare Albert Popov, avec un temps cumulé de 2 minutes 14 secondes et 94 centièmes. Pour ce qui est de la météo, eh bien c'est toujours très couvert, avec des flocons de neige, pas aussi importants que cette nuit et tôt ce matin, quand on est arrivé pour la première manche, mais c'est pas les conditions idéales de ski, surtout avec ces gros tas de neige qui sont en train de se former à chaque virage, à chaque passage des skieurs, et qui peuvent, pour ceux qui ont des virages un peu trop larges, représenter un danger. Donc voilà le danger des Français tout à l'heure. On va suivre notamment Mathieu Fèvre qui passera en antépénultième et Thibaut Favreau également qui va passer en 26e position. Ils sont tous les deux dans un très bon temps issu de la première manche avec 8 centièmes de retard pour Mathieu Fèvre sur Marco Dermat, le meilleur de la première manche. 19 centièmes seulement aussi pour Thibaut Favreau qu'on n'attendait pas là. Et puis un petit peu plus loin dans ce chrono de la première manche, Alexis Pinto qui n'a qu'une seconde et six centièmes de retard, mais les conditions peuvent changer, on peut avoir encore de la visibilité qui se dégrade, et évidemment c'est un sport d'extérieur, Mathieu Fèvre le disait tout à l'heure, il faut s'adapter en permanence, donc attention à la météo qui peut se dégrader et qui peut complètement bouleverser l'ordre d'arrivée tout à l'heure.
Guillaume Batin avec Romain Luquiens pour les moyens techniques. Il neige aussi à Zhangjiakou, à 120 km de là, où commence à l'instant l'épreuve de ski de fond, le relais 4x10 km hommes que l'on va suivre évidemment, ainsi que le biathlon à partir de 10h avec la poursuite femmes et à partir d'11h45 avec la poursuite hommes et peut-être une quatrième médaille en 4 courses pour Quentin Fillon-Maillet.
Quel suspense, quelle intensité finalement, quelle victoire des Bleus en deuxième match du tournoi Destination.
Le 15 de France s'impose face à l'Irlande. L'autre grande favorite, la compétition 30 à 24 devant 80 000 spectateurs au Stade de France. Voilà qui fait des Français les seuls invaincus désormais et en lice pour le grand chelem tant attendu depuis 2010, Vincent Pellegrini.
Avant de les combler au coup de sifflet final, les Bleus ont fait trembler leurs supporters. Car après une première mi-temps nettement à leur avantage, ils ont laissé les Irlandais revenir au score en début de deuxième période, avant de se remettre à flot et de gagner ce bras de fer. Signe de la force mentale et de la maturité grandissante de ce groupe, estime le sélectionneur Fabien Galthié.
Contre ces équipes-là, il faut accepter aussi d'avoir des temps faibles. Et ensuite, il faut arriver à limiter leur impact, qui est parfois violent. Nous avons réussi à reprendre la main, ce qui est bien pour l'équipe parce que au-delà de la victoire, il y a aussi l'expérience collective qui se développe et ressentir une forme de confiance qui imprègne l'équipe.
Le 15 de France est désormais la seule équipe à pouvoir réaliser le Grand Chelem cette année, mais le passé récent pousse Antoine Dupont à la prudence à deux semaines d'un match face à l'Écosse.
On a tous appris maintenant des deux dernières éditions où on perd peut-être le tournoi sur une défaite en Écosse il y a deux ans. Donc on ne va pas parler de Grand Chelem pour le moment, mais on va se concentrer sur le prochain match en espérant qu'on ait quelque chose à jouer de sympa d'ici un mois.
Car dans un mois, en clôture du tournoi, les Bleus accueilleront l'Angleterre au Stade de France. Mais avant cela, ils auront deux déplacements périlleux à négocier en Écosse, puis au Pays de Galles.
Et encore avant cela, une semaine de repos qui tombe à pic, reprise donc contre l'Écosse le 26 février. Cet après-midi, l'Italie reçoit l'Angleterre à 16h.
Merci Emma.
Emma Sarango dans le journal de Christelle Rebière. Le temps de ce dimanche.
La météo avec Vitacitral TR+, des laboratoires Acepta. Gel réparateur pour les mains abîmées par le froid, les gels hydroalcooliques et les lavages fréquents. En pharmacie et parapharmacie.
Et dans le ciel aujourd'hui, ce sera mieux cet après-midi que ce matin, Jean-Michel Golinski.
Un temps maussade va se maintenir aujourd'hui du golfe du Lion, premier contrefort du massif central avec des flocons à moyenne altitude. Au fil de la journée, l'ambiance maussade va gagner vers la Provence. Sur le quart nord-ouest, arrivée de pluie et de vent à 80 km à l'heure dès ce matin par le Finistère. En journée, ce temps perturbé va gagner la Normandie, le Poitou-Charentes et l'Aquitaine. Plus à l'est, le temps va rester sec, la pluie n'arrivant que la nuit prochaine, mais le ciel va se charger en cours d'après-midi entre l'est des Pyrénées, le centre et la Belgique, le soleil ne résistant vraiment que sur les régions de l'est, dans les températures stationnaires par rapport à hier autour de la Méditerranée, mais souvent plus douces, de 3 à 5 degrés sur les autres régions.
Jean-Michel Golinski, Météo France.